Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Ah non, c'est pas Pierre Dorian aujourd'hui. Salut à tous, il est 15h05, on est dans le Dimeco Show, on y revient au Mastic, et à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis venu à Paris faire un grand chelem en direct live, un grand chelem bio, et avec mes amis du jour. Alors, on n'a pas le gros Moscato aujourd'hui, tant mieux, parce qu'il était nul cette semaine. Donc, je vous présente les amis du jour. Denis Charvet, oui, comment il va?
Salut,
The Flower of Cahors.
Les auditeurs ne le voient pas, mais je te filme, tu es excellent.
Voilà,
ah, tu es excellent.
Et le Steve, comment il va, le Steve?
Ça pleine forme.
Les Hollywood, ils vont bien,
les Hollywood,
bien. Bah, voilà, comment il va, mon petit Adrien? Tout va bien, gage?
Comment ça va, Eric?
Ça défile toujours.
Toujours autant.
Ah, les compteurs sont relevés régulièrement. Et puis, bien sûr,
bonjour,
mon acolyte, alcoolique, Pierre Dorian. Comment il va, mon Pierrot?
Tu crois vraiment que tu vas faire le grand chelem à Paris?
Eh ben, je suis venu pour ça, là, aujourd'hui.
Si, c'est pareil,
j'ai bossé. Alors, avant de commencer l'émission, je fais un petit bisou à tous nos amis de Villiers-sur-Marne.
Voilà.
Puisque demain, Osiris est à Villiers. Ce matin, j'étais avec des écoliers, des collégiens de Villiers-sur-Marne. Donc, voilà. Et je remercie François et puis toute l'équipe de la mairie de Villiers-sur-Marne qui m'ont accueilli comme un roi.
Ah, ça va être super, cette
émission. Voilà,
c'est éclaté. C'est vraiment le Dimeco Show.
Oui,
c'est le Dimeco Show.
Ben, c'est,
là, on part sur de la vanne. Question moyenne du jour. 15h06 sur RMC. Elle concerne les Marseillais en boucle la semaine spéciale Marseille dans la question moyenne, puisque la question moyenne aime les Marseillais, Eric Denis, Stephen et Pierrot. Supporters marseillais, que préférez-vous le plus cette saison? Gagner la Ligue Europa? Ou choix numéro 2, être sûr, être certain que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette saison? Au fond de vous, hein, pas de mensonge entre nous. Hein.
Non, moi
au fond de vous, qu'est-ce
réponse,
que vous préférez le plus, Eric Dimeco?
Moi, je veux gagner la Ligue Europa.
Tu veux gagner la Ligue Europa. Jamais les premiers à le faire.
Ouais, je pars du principe que un jour le PSG va la gagner.
Tu t'y prépares?
Voilà, on y est préparé. Je voulais surtout pas qu'il a gagné l'an dernier parce que ça aurait été un peu con qu'il a gagné l'année où on fait les 30 ans. Mais là, maintenant, non, c'est bon, ça. Par contre,
gagner la Ligue Europa.
Ligue des Champions, ça pète quand même.
Denis,
sur le
tu étais Marseillais.
Gagner la Ligue Europa.
Ligue Europa, Stephen Brun.
Oui, je pense qu'il faut à un moment donné arrêter de se réjouir à travers les autres. Donc il faut avoir des propres résultats.
Là, vous parlez comme des gens raisonnés. Les Marseillais ne sont pas toujours aussi raisonnés que ça.
Gagner la Ligue Europa, ça veut dire qu'il faut le Champions League pour l'année prochaine. C'est exceptionnel pour l'OM. Gagner la Ligue Europa, t'as le Champions League.
Non, mais je suis curieux d'avoir le résultat de cette question moyenne, du coup.
Moi, je pense vous trompez.
Ah, Pierrot.
Je pense que vous trompez.
Ah,
la Ligue des Champions, enfin, le fait garanti que l'équipe serait tout. La Ligue des Champions, tout simplement parce que Marseille ne va pas gagner la Ligue Europa. Donc, si tu leur dis aujourd'hui, tu vas faire quoi?
Ah, oui.
Ah, vu comme ça, Pierrot. Mais, moi, je les vois passer contre Benfica.
Oui.
Alors, Liverpool qui joue le titre en Angleterre, hécatombe.
Ah, il faut lâcher un peu de
l'Est. Ah, ouais.
Après, Klopp, pour son des adieux,
le problème c'est que les mecs sont en mission là.
Alors là il y a une réponse à 64% sur X, l'ancien Twitter. Vous répondez quand même malgré tout,
la Ligue Europa.
Gagner la
Ligue
Europa,
on est dans le positif.
64%, une épopée. T'élimines Benfica, t'élimines Liverpool en finale, je sais pas qui tu veux prendre. À Dublin, une ambiance extraordinaire. Aubameyang le héros. Aubameyang plus fort que Drogba.
Voilà,
Pierrot,
c'est
le menu.
Allez, le programme.
Le cyclisme est-il devenu trop dangereux? Est-ce qu'il faut brider les machines? Est-ce que c'est possible, ça, par exemple, de brider les machines dans un sport de vitesse? Et puis il y a cette histoire de caféine qui va vous intéresser. À 16h, Ousmane Dembélé est-il un foiré classe? C'est comme ça que les Italiens appellent les joueurs hors normes.
Exactement.
Nous réglons le problème à 16h sur RMC. Et puis 17h, les Marseillais vont-ils sortir la tête de l'eau? Le journal moyen première édition à 15h45.
Vous allez trancher un débat d'actualité. Vous allez me dire si vous êtes vélo ou voiture, deux camps qui s'opposent en ce moment, notamment dans les villes. Et puis, une méga star, le supporter le plus célèbre du SU Agen, sort un nouveau clip, l'ami de Denis Charvet. Rendez-vous 15h45, c'est une belle surprise que nous a offert Francis ce matin, Francis Cabrel, sur BFM TV. C'est à 15h45, journal moyen, première édition.
Et puis avant de démarrer sur le cyclisme, les cadeaux. Alors attention, le Kikadi va se terminer en apothéose, puisque Eric joue le grand chelem et le cadeau est magnifique. C'est une semaine de vacances au mer, dans un mobile home, en pension complète. Donc Kikadi par SMS au 732-16.
Il a
pour gagner le cadeau, pour faire gagner Eric ou pour faire perdre Eric, vous appelez, vous envoyez Kikadi au 732-16.
Eric, normalement, quand t'entends au mer, tu fais au mer.
jeu. Alors, ben ouais. Oh, mais, non, mais ça, par contre, c'est un truc qui m'énerve chez le gros quand il fait ça, parce que je me dis, un jour, il va pas le faire, et puis il le fait toujours.
Ouais, Eric est monté à la capitale avec toutes ses notes préparées. Ouais, ouais. Tu as travaillé le Kikadi, tu es en mission grand chef.
Ah non, non, mais toute la semaine, j'étais impressionnant. Hein. J'avais,
c'est vrai, c'est vrai,
j'avais travaillé, je vous ai. J'ai remis,
le maillot de l'OM,
j'ai remis les pendules au milieu du village.
Ouais.
Et je vous ai montré que quand je bosse, il n'y a plus match.
Tu peux mettre le maillot de l'OM, toi.
J'ai peur de mettre le maillot de l'OM.
Pourquoi? Tu sais que l'autre jour, je voulais descendre avec lui pour le grand chef quand on était à Marseille. Je l'ai oublié. Ça s'appelle un acte manqué.
J'ai eu peur.
Peut-être au fond de moi, j'avais peur.
Pourquoi tu ne fais pas le Kikadi contre nous trois?
Ah non, non.
Oui, oui, voilà.
Pourquoi pas?
Dans tous les cas. Bah, déjà, il n'y aura pas de partenaire.
Déjà que généralement, le vendredi, quand je pars pour un grand chelem, il y a la France entière contre moi.
Oui.
Parce qu'il y a toute la rédaction qui envoie les textos au gros. Donc, c'est bon. Là.
Rendez-vous 17h45, ce sera le grand moment.
Et puis, supporters marseillais, on a un cadeau pour vous aujourd'hui. C'est le maillot de l'Olympique de Marseille. Pour cela, il faut attendre la fameuse alerte, bien entendu. Dès que ça retentit, vous envoyez OM par SMS au 732-16. Tout de suite, heureusement pour Vingegaard, hier, Vincent Moscato était présent lors de sa chute.
RMC, le Super Moscato Show.
Chute terrible sur les routes du Tour du Pays Basque.
J'ai le droit de dire un pronostic. J'ai été pompier à Gaillac et j'ai le BNS.
À 35 km de l'arrivée, dans cette descente.
Donc j'ai le droit d'arriver sur un accident, de dire voilà, il a ça, on le met en PLS.
Jonas Vingegaard est au sol. Primoz Roglic est au sol.
Au Café des Sports, j'ai dit laissez-moi faire, j'ai le BNS. Je m'en suis occupé, mon pam.
Énormément de coureurs qui sont partis à la faute.
J'ai tapé comme ça, là, pam, 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 pam.
C'est un véritable carnage sur la route de cette quatrième étape.
Les pompiers sont arrivés, j'étais caché dans les chiottes au fond. Il m'a dit, là, t'as frappé fort, moi, quand même. Il était bleu comme ça.
Breaking news.
Alors, on compte quand même qu'un jour Vincent Lantenne en direct nous a expliqué qu'il avait tué un mec.
Non, mais c'est une légende, c'est de la fable.
Qu'il a pas réussi à sauver.
Après, comme il est courageux, il est parti avant de savoir s'il était vraiment mort ou pas. On n'est pas sûr qu'il soit vraiment mort, le mec. Alors, on accueille tout de suite Arnaud Souk qui est sur les routes de Paris-Roubaix. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Bonjour Arnaud.
Donc, on a un peloton sous le choc après la grosse chute sur le Tour du Pays Basque. Et ces chutes graves, elles se multiplient ces dernières semaines. Donc, notre débat est le suivant. Le cyclisme est-il devenu trop dangereux? Alors, c'est sûr que ça pose des questions qui peuvent sembler paradoxales. Est-ce qu'on peut brider des champions dans un sport de vitesse? Parce que c'est ça la question. 32-16 pour débattre avec nous. D'abord, un point sur la chute d'hier. Et quel est le bilan? Est-ce qu'on a du nouveau sur Vingegaard, notamment?
Alors, le bilan est sérieux, hein, mais beaucoup moins grave, entre guillemets, que ce que les images nous avaient laissé dans un premier temps imaginer. Rappelons quand même que Vingegaard, après sa chute, a été placé en position latérale de sécurité, mis sous assistance respiratoire avant d'être évacué vers l'hôpital. On a appris hier en début de soirée qu'il était parfaitement conscient à ce moment-là, mais qu'il souffrait de fractures de la clavicule et des côtes. Précision ce matin de son équipe Visma Liesebike, le Danois souffre aussi de contusions pulmonaires et de pneumothorax. Alors, bien sûr, la question, c'est de savoir désormais s'il pourra être rétabli à temps pour le Tour de France. C'est un petit peu tôt sans doute pour le dire, mais prenons des précédents de coureurs victimes déjà de fractures de la clavicule. C'est arrivé par exemple à Florian Sénéchal fin février et il a pu reprendre la compétition trois semaines plus tard. Il sera d'ailleurs sur Paris-Roubaix ce week-end. Sur la question du pneumothorax, plus problématique, là aussi un précédent relativement récent existe. Quand Julien Alaphilippe avait violemment percuté un arbre sur Liège-Bastogne-Liège en 2022, il avait pu reprendre la compétition deux mois plus tard. Quant à Remco Evenepoel, qui est l'autre gros blessé, on va dire, dans la chute d'hier, lui aussi souffre d'une fracture de la clavicule et devrait donc être assez rapidement rétabli, même s'il sera obligé de zapper les courses qu'il avait prévues au mois d'avril. Primoz Roglic, lui, ne souffre que de brûlures superficielles et sera donc vite remis sur pied, malgré son abandon sur le Tour du Pays Basque.
Bon, il y a trois mois pour le Tour, ça semble compliqué quand même.
On cumule les peines là, comme aux États-Unis ou non? Parce que est-ce que c'est deux mois? Non, mais je déconne. Est-ce que c'est deux mois pour le pneumo machin là et trois semaines?
Non,
parce qu'en réalité, tu peux pas comparer avec ce qui s'est passé avant, parce que lui, il a tout ça en même temps. Donc,
oui, et puis
est-ce que tu peux.
Et puis après, un pneumothorax, ça peut être très grave comme moins grave, donc c'est assez difficile de se projeter, ceci étant. Je vois pas comment il pourra arriver à 100% au Tour.
Hein. Méfie-toi, Axel Oustic, là.
T'as quand même t'as toute ta préparation qui est flinguée. Hein.
Ouais, prendre au départ, pourquoi pas, mais à 100%, c'est impossible.
Impossible. Alors, Arnaud, on va en venir donc au débat du jour, débat qui agite le peloton, parce qu'on a entendu pas mal de professionnels faire le constat que finalement, les vélos sont presque trop rapides, c'est devenu des bolides. Est-ce que la vitesse est un réel problème dans le cyclisme moderne?
Alors oui, hein, incontestablement. Et d'ailleurs, Julien Jourdi, le directeur sportif de Decathlon et G2R La Mondiale, nous confiait hier que les vélos étaient aujourd'hui de vraies machines de guerre optimisées à 110%. Le matériel a énormément évolué, particulièrement ces dernières années, au niveau de l'aérodynamique, hein, qui est devenue prégnante alors qu'elle n'était pas vraiment un sujet il y a 10 ans dans le vélo, à l'exception évidemment des vélos utilisés par les coureurs en contre-la-montre. Aujourd'hui, les machines utilisées par les coureurs, dont le poids minimal, heureusement, est réglementé à 6,8 kg, sont quand même très légères, compte tenu des vitesses pouvant être atteintes en course, parfois plus de 90 km/h, avec des records de vitesse moyenne régulièrement battus aussi sur les courses depuis plusieurs saisons. Mathieu Van Der Poel, champion du monde en titre et vainqueur l'an passé de Paris-Roubaix, nous donne son avis.
Oui, je pense aussi les grands braquets. Et avec les braquets adaptés, on peut aller encore beaucoup plus vite. Les freins de disque aussi, on peut freiner encore plus tard et plus fort. Mais il y avait aussi des grandes chutes quand il n'y avait pas tout ça. Donc je pense que ça va être difficile de trouver une solution.
Voilà, difficile en l'état, selon Mathieu Van Der Poel, de réglementer quoi que ce soit. Et puis les consignes, hein, resteront les consignes. Dimanche, comme d'habitude, à l'entrée des secteurs clés, tous les directeurs sportifs demanderont à leurs coureurs, dans la radio et dans les oreillettes, de se placer à l'avant du peloton. Et une fois de plus, ça risque de ne pas passer pour tout le monde.
Après, quand il dit que ça va être difficile de trouver des solutions, vu ce que tu nous expliques, une solution, ça peut être d'interdire le tout petit pignon.
Bien sûr.
Je sais pas, ça me
semble. Absolument, oui, non, mais absolument. Mais après, tu n'empêcheras, quoi qu'il arrive, jamais les coureurs. Aujourd'hui, il y a aussi une réalité. C'est que tu as quand même des blocs équipes qui sont beaucoup plus forts qu'il y a certaines années. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de monde qui va être placé à l'avant du peloton parce que tu as beaucoup de leaders. Et la preuve, hein, sur le Tour de France, on annonce un Tour de France qui n'a jamais été aussi disputé entre quatre énormes leaders pour le classement général: Vingegaard, Pogacar, Roglic et Evenepoel. Ça aussi, c'est la preuve vraiment que voilà, ça s'ultra professionnalise et qu'il y a de plus en plus de monde qui veut toujours gagner. Sauf que bah, il n'y a toujours qu'un seul gagnant.
T'as de commentaires sur le petit pignon, Eric? Non,
t'es pas intervenu.
Non, mais c'est surtout que moi, je me sens pas concerné, donc je vous laisse.
Si alors,
vous
avez dernière chose, et là, je pense que le grand public n'est absolument pas au courant. Il y a des responsabilités autres, celles des directeurs sportifs, et notamment ce phénomène qui est assez récent a priori, le phénomène de la final bottle. Qu'est-ce que c'est exactement, Arnaud?
Alors d'abord, hein, ce point a été soulevé effectivement par Lilian Calmejean, hein, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. Dans un tweet hier, il a pointé cette dose élevée de caféine que beaucoup de coureurs absorbent dans les derniers kilomètres pour se donner un coup de boost. Alors tu dis le phénomène est plutôt nouveau. Non, il est assez ancien en réalité ce phénomène, mais les coureurs, avec cette dose de caféine, sont encore plus décomplexés dans ces derniers instants de course où tout va déjà beaucoup plus vite. Oui, ils sont excités. Écoutez, Mathieu Van Der Poel, parce que je lui ai posé la question ce matin justement sur ce shot d'énergie qui, selon lui, n'est pas la cause des chutes.
Oui, je pense. Ouais. C'est pas un secret que beaucoup de coureurs utilisent du caféine pour le final, mais ouais, je pense pas que c'est ça vraiment le problème. C'est juste, il y a de l'adrénaline aussi dans le peu de temps. Tout le monde veut être à la même place, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et c'est ça le problème surtout, je pense.
Alors juste un dernier point, messieurs, rappelons que le tramadol, un antidouleur puissant, est interdit en course depuis 2019 désormais. Il avait été notamment pointé du doigt il y a une dizaine d'années, soupçonné de causer des chutes à cause de la perte de réflexe qu'il causait. Force est de constater que son interdiction n'a pas changé grand-chose au nombre de chutes. Donc voilà, pour en revenir à la caféine, parce que le tramadol, finalement, le sujet, c'est un petit peu le même. Pour en revenir à la caféine, même si ça légifère, au niveau de l'Union Cycliste Internationale, on n'est pas certain, évidemment, que ça change grand-chose au nombre de chutes. Chute qui reste tout aussi important qu'il y a quelques années dans le cyclisme.
Alors, la dernière fois que j'ai pris de la caféine, moi, les gens m'ont salué quand je suis arrivé dans une pièce, avant que j'arrive dans la pièce.
Oui. Dis-nous pourquoi.
Bon, alors, la question...
Tu fais une belle émission.
La question est, le cyclisme est-il devenu trop dangereux? On peut aussi débattre de, est-ce qu'il faut limiter la vitesse? Est-ce que c'est possible, philosophiquement, de limiter la vitesse dans un sport de vitesse?
Est-ce qu'on ne peut pas limiter le poids du vélo?
La Formule 1 l'a fait,
on ne peut pas limiter le poids du vélo. Parce que c'est un des facteurs, le poids du vélo. Les vélos sont des.
L'histoire
des
braquets. Moi, je pense que le vélo, déjà.
Non, mais c'est l'histoire des braquets qui est centrale, hein, je pense.
Oui, le vélo, il est plus maniable maintenant, parce qu'il paraît que tu ne peux plus le casser, le vélo. Arnaud, donc, il y a quand même un problème de.
Mais ça, le poids, il est limité à 6,8 kg depuis déjà des années. C'est le plancher minimal. Non, c'est vraiment la question des braquets qui permettent d'atteindre. Juste,
parce que après, il y a une autre solution, c'est de limiter le nombre de coureurs. Hein. C'est-à-dire, tu fais moins d'équipiers par course.
Oui, mais ça, le tour de.
Bah oui, mais ça.
Oui, mais ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. T'as plein de compétitions où c'est limité à 7 par équipe, alors qu'il y a 20 ans, c'était 9 par équipe.
Et après, on reste comme ça. Et ça a toujours été un sport dangereux. Il y a eu des morts. Que je sache, ça fait longtemps.
Mais c'est pas une fatalité.
Non, mais c'est pas une fatalité. Je vais paraphraser Vincent qui est pas là. Mais si tu veux pas avoir mal en faisant du vélo, si tu veux pas tomber, tu fais du basket. Tu fais du basket. Tu te fais pas mal.
C'est un raisonnement totalement binaire.
Profitons de la présence de Vincent pour pas avoir des raisonnements simples.
Mais non, mais Eric, c'est dangereux. Le vélo, c'est dangereux. La moto, c'est dangereux.
Oui, mais la Formule 1, c'est dangereux, mais ils sont arrivés à trouver des parades.
Mais c'est toujours dangereux.
Oui, mais il y a moins de morts depuis des années. Non, mais Eric, il faut protéger les coureurs.
Ils ont le casque.
Il faut limiter ce que dit Arnaud. Le sujet des braquets, on prend une décision. L'UCI dit là, on est en train de prendre un très mauvais virage dans le cyclisme. Et ça va mal se passer. On prend une décision sur les braquets.
On peut pas empêcher. C'est leur boulot d'essayer de limiter justement la vitesse.
Les coureurs y pensent aussi, tu vois.
Des artifices. Et pour que ce soit pareil pour tout le monde, mais ne pas enlever le sel de ce sport-là malgré tout, c'est que les mecs, c'est des avions. Moi, ce qui me fascine sur le Tour de France, c'est quand je vois les mecs descendre à 5 km/h. Voilà. Mais moi, je sais pas le faire.
Mais ça, tu
les
as pas.
5 km/h. Oui, mais bon, moi, ça me fascine. Et c'est pour ça qu'ils sont pros, et c'est pour ça qu'ils sont payés cher, et c'est pour ça que je suis devant la télé. Donc, si on enlève ça et qu'ils roulent comme moi, je peux rouler. Et ben, du coup, ça. Quand tu regardes le sport professionnel à la télé, c'est parce qu'il faut des trucs que tu peux pas faire.
Mais dans l'équipe Madouas, il dit en 2018, donc c'est pas vieux, ça fait 6 ans, ils étaient le plateau, le braquet était à 53.
Ouais.
Maintenant il est à 56.
Ouais, Denis, c'est comme le rugby.
Il y a une évolution physique des coureurs aussi.
Alors d'accord. Oui, mais la bécane, c'est le Formule 1, la bécane. Donc aujourd'hui, c'est trop dangereux. Je pense que moi, il faut limiter le braquet à 54. Il faut plus monter à 56. La vitesse, ça va être moindre. Puis après, j'ai une question à Arnaud. C'est par rapport aux oreillettes. Est-ce que les oreillettes déstabilisent vraiment aujourd'hui la concentration des coureurs?
Mais c'est-à-dire, en fait, c'est un tout, encore une fois. Voilà, ça peut pas être juste une raison. C'est pas juste la raison du braquet. C'est pas juste la raison de l'aérodynamique. Tout est une raison. Et les oreillettes, effectivement, font partie des raisons. Et moi, je discutais avec Marc Madiot, le manager général de la Groupama FDJ. J'étais avec lui à la Trouée d'Arambert, là, il y a 2 heures de cela. Et il me disait, il faut qu'on teste. Au moins, testons de voir, de faire quelques courses sans les oreillettes. Et on verra bien. Parce que ce que je vous disais, là, il y a quelques instants, quand je vous disais, sur les secteurs clés, par exemple, sur la Trouée d'Arambert, tous les directeurs sportifs vont hurler dans les oreillettes pour dire aux coureurs, allez vous placer à la
même moment.
Donc ça veut dire
au
que ça veut dire que le coureur, voilà, ça veut dire que le coureur, il a ça dans les oreilles, il n'entend pas ce qui se passe à côté de lui. Le frein à disque, déjà, ça fait pas de bruit. Il a les yeux rivés sur le capteur de puissance. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a de la perte d'attention, en fait. Et les oreillettes, ça fait partie effectivement des raisons pour lesquelles il y a de la perte d'attention, qui font que potentiellement parfois il y a des chutes.
Après le vélo, c'est quand même des mecs qui vont, tu l'as dit, 50, 60, 70 avec un casque et un legging. Donc forcément, quand ils tombent, ça fait du grabuge et ça fait des dégâts. Les mecs sont pas protégés en Formule 1. Il y avait la possibilité de les protéger un petit peu plus, le haillon. Là, le vélo, ça reste un mec en vélo avec un casque et un cycliste et qui pédale. Donc oui, c'est dangereux. Maintenant, limiter les braquets, ça veut dire que tu nivelles les valeurs du cycliste par le bas aussi. Ça veut dire qu'un mec qui est ultra puissant, qui peut développer des watts incroyables avec des braquets supérieurs, et tu le mets au même niveau que les autres. Il y a une certaine forme d'injustice aussi. Maintenant,
quand ça va monter à 58, donc on va rien dire. Ça veut dire
mais il y a 20 ou 30 ans, les mecs étaient moins forts, mais il y avait des chutes, il y avait des mecs qui décédaient.
C'est pas une fatalité.
Mais tu peux les aider. Tu veux faire quoi de plus?
Mais dans ces cas-là, alors, est-ce que Arnaud, le secret, parce que le secret, par exemple, en Formule 1, en moto, ils ont pas limité les puissances des moteurs ou ils ont fait en sorte de travailler sur la sécurité. La sécurité à l'intérieur du baquet, du parcours. Et est-ce que le secret.
Mais des limites d'aérodynamisme, pour pas que ça aille trop vite.
Pour limiter la vitesse, ils ont limité aussi.
Est-ce que Arnaud, c'est pas possible de travailler sur l'équipement du coureur? C'est-à-dire que leur petit casque là, machin, est-ce qu'il y aurait pas moyen d'avoir un casque un peu plus enveloppant? Est-ce qu'il y a pas moyen d'avoir une dorsale?
C'est déjà le cas, Eric, mais.
Arnaud.
Ouais. Mais c'est déjà le cas, si tu veux. Voilà, on essaie de faire en sorte que les coureurs soient quand même très bien protégés. Je parle au niveau de la tête. Mais on parlait de l'aérodynamique. Là, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ça va aussi beaucoup plus vite, c'était ce que je vous disais aussi il y a quelques minutes, c'est que vraiment on s'y intéressait pas du tout il y a une dizaine d'années. C'est l'aérodynamique sur les contre-la-montre, mais sur toutes les courses aujourd'hui, pas seulement en contre-la-montre. On va chercher à faire en sorte que l'équipement et donc la combinaison des coureurs, les chaussettes des coureurs, les chaussures des coureurs soient les plus aérodynamiques possibles. Donc ça, évidemment, bah, c'est pas vraiment, possible à mettre en relation avec la sécurité des coureurs. Donc là aussi, il faudrait peut-être que ça légifère au niveau de l'Union Cycliste Internationale.
La parole à Harold, 32-16. Salut Harold.
Oui, salut la team.
Bonjour. Salut Harold. Comment salut, tu te Harold. Positionnes, toi, dans ce débat-là?
Ben moi, je me positionne sur un autre biais.
Le biais. Vas-y, Harold. Mot trop compliqué pour le Moscato Show.
j'ai l'impression, en plus, j'ai appris que le gros était pas là, mais bon, Eric est là,
Moi, j'ai un problème avec ton téléphone qui est pas top, donc essaye, mais si ça passe pas,
Harold.
Enlève le haut-parleur. Je pense qu'il y a un petit haut-parleur, là, non?
Non, je suis pas sur haut-parleur. Bah, attends, voilà. C'est peut-être un peu mieux.
Ça va mieux, là. Vas-y.
Voilà. Eh ben, écoute, moi, je pense que c'est peut-être l'expérience de certains coureurs. Nous avons un coureur, Jevine, qui est un habitué des chutes de vélo. Il sort d'une Académie Zwift. Vous savez, c'est des vélos qui sont connectés sur les appareils. Et donc, c'est un garçon qui est ultra fort, qui a des datas de fou, qui a été mis sur un vélo et qui chute régulièrement lors des courses. Il y a également pris dans la chute Roglic, qui est un ancien... Ouais.
Mais où tu vas en venir,
ouais, là, vas-y,
mal à te suivre.
Va au but.
Voilà. Et puis également Remco, c'est plutôt le manque d'expérience, je pense, dans les millièmes de secondes où il faut avoir le réflexe et ne pas faire d'école de vélo quand on débute un sport en mode.
Mais sauf que là, t'as pris les plus expérimentés du peloton, Roglic, Vingegaard, je comprends pas.
Non, Roglic, Remco. Ouais. Qui viennent. En fait, c'est quand même trois coureurs qui viennent pas du monde du vélo. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, même si ça fait quelques années qu'ils sont dans le peloton, hein, j'enlève pas leur technicité et leur qualité de cycliste. Mais c'est vrai qu'un gars comme Jevine, il tombe tout le temps.
Ouais. Mais donc, si j'ai bien compris, tu veux dire que en réalité, on a mis des mecs qui faisaient du vélo d'appartement très fort sur la route.
Ouais, voilà.
Non, mais c'est ça, deux mots. C'est-à-dire que les mecs qui avaient des
jetons, c'est ça. Jevine, c'est typiquement ça.
C'est un peu raccourci quand même.
C'est une exception. C'est vraiment une grosse exception, Jevine.
Merci, Harold.
Mais c'est vrai.
Mais c'est vrai que oui, ça s'apprend malgré tout de rouler un peu l'auto. Si t'as les mecs, c'est les
Paris-Roubaix. C'est à suivre avec Arnaud dimanche sur RMC. Merci beaucoup, Arnaud.
Les grandes gueules du sport en direct de Compiègne du départ dimanche, 9h30 midi. J'y suis toute l'équipe. Denis Charvet, malheureusement, ne sera pas là. 9h30 midi, les GG du sport dimanche.
Tu fais le trou d'arrière la veille, toi, il paraît.
Dans un instant, les Sudaf en Coupe d'Europe de rugby. On en reparle sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h. Le super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Eh non, toujours le dîner cochon. Il est 15h32. Le mec, il s'arrête jamais, tu sais.
Ah, il est lancé, voilà. Ouais. Non, mais... Allez, fais-nous rire, Eric.
Tu sais ce qu'on a qu'à dire. Si tu fais le grand chelem, tu reprends lundi.
Voilà.
À la place du gros.
Ah ouais, ouais,
Paris,
ouais.
À Paris, par contre.
Et je le présente en dernier. Moi, tu le présentes pas, même.
15h32 sur RMC. Dans une demi-heure, on va débattre du Paris Saint-Germain et du nouveau poste d'Ousmane Dembélé. Dembélé, selon vous, est-il un fuori classe, comme disent les Italiens? Le Super Moscato Show règle le problème. Mais d'abord, la Coupe d'Europe de rugby.
RMC,
le cri de gueule du Super Moscato Show.
Alors, la Coupe d'Europe qui ne s'appelle plus Coupe d'Europe, mais Champions Cup, puisqu'on a intégré des franchises sud-africaines. Je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous validez, est-ce que vous validez pas? Puisque maintenant, ça va faire presque deux saisons qu'ils sont là. On va faire le point avec Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde. Alors,
salut. Ça, Wilfried.
Donc, ce week-end, il y aura les huitièmes de finale. Il reste deux équipes sud-africaines. Les Blue Bulls reçoivent Lyon demain à 13h30 et les Stormers reçoivent La Rochelle à 16h. En termes de résultats, ça donne quoi ces deux premières saisons, Wilfried?
Bah alors avant ces huitièmes, sur les deux saisons, avec deux provinces engagées cette année, trois l'an passé, le bilan global des Sud-Africains, bah, c'est le suivant. Il y a eu 25 matchs, ils en ont gagné 16 et perdu 9. Sur les 16 victoires, 4 l'ont été à l'extérieur, en Europe. Et à l'inverse, aucune province sud-africaine n'a perdu chez elle, à domicile, en Afrique du Sud. 12 matchs là-bas, 12 victoires sud-africaines. Que ce soit pour les Sharks, les Stormers ou les Bulls, sur les deux saisons, c'est aussi, il faut le savoir, 100% de qualification pour les huitièmes de finale. Ils ont tous été en phase finale. Et l'an passé, il faut noter que deux provinces ont eu le même parcours. Jusqu'en quart de finale pour les Sharks et les Stormers. Mais il faut quand même souligner qu'on a observé le même genre de résultat pour les deux, en fait. Les Sharks avaient battu le Munster en huitième de finale en Afrique du Sud, 50 à 35. Mais une semaine après, ils ont perdu à Toulouse 54 à 20. Et de leur côté, chez eux, les Stormers avaient éliminé les Harlequins 32 à 28. Mais le week-end d'après, ils ont aussi perdu largement à Exeter 42-17. Donc on peut penser que le voyage sur plusieurs jours, puisque les huitièmes et les quarts s'enchaînent hein, sur deux week-ends, bah, ça a eu des conséquences pour eux. Donc tu l'as dit, cette année, il y a Stormers La Rochelle et Bulls Lyon. Un quart de finale à nouveau en Afrique du Sud, bah, c'est très hypothétique pour eux si la logique est respectée. Et puis, par contre, quoi qu'il arrive, en demi-finale, et ça c'est dans le règlement, ça se jouera en Europe, c'est inscrit.
Merci Will.
Est-ce que tu es convaincu, Denis?
Avec plaisir. Bravo.
Écoute, au départ, j'aimais bien la participation
l'idée, des, ouais.
J'aime bien l'idée. Maintenant, je pense qu'elle est.
Que c'est, on te l'avait dit, Denis. On t'avait prévenu.
Non, mais je pense.
Fausse bonne idée, tu penses?
Mais fausse bonne idée parce qu'il n'y a pas la visibilité. Puis, tu sais qu'au bout du compte, il n'y en aura aucun jamais en finale parce que, il vient de te le dire, les demi-finales, c'est en France, c'est en Europe, pardon. Et qui sont pas les équipes pour s'imposer, elles font véritablement chez les gros comme Leinster, La Rochelle ou Toulouse. Et puis c'est la visibilité. Tu connais pas ces provinces-là. C'est très loin. C'est très loin de nous. C'est pas notre culture. Mais alors même s'il y a de gros matchs, je pense que Stormers La Rochelle sera un gros match à voir et à regarder. Mais après, pour l'intérêt d'une Coupe d'Europe, il faut rester en, Europe.
Là, sur les stades de Wilfried, quand même, c'est significatif. C'est-à-dire que le déplacement est tellement compliqué.
Ils
perdent à l'extérieur.
Non, mais ce qui est ridicule,
c'est donc c'est nul, quoi.
Non, pour moi,
c'est quoi le but de faire rentrer encore des sous? Parce que vous,
c'est que pour les sous.
Les sous, ils sont rentrés beaux. Ils sont rentrés beaux,
alors, partir en Montpellier. Ce qui est ridicule, c'est que. On l'a vu avec La Rochelle. La Rochelle
a
mis 24 heures pour se rendre au Cap.
Oui, mais après, ils sont pas obligés de se déplacer comme des pauvres non plus. Hein.
Non, mais ça coûte de l'argent. Non,
c'est pas si simple.
Tu
pars de La Rochelle.
Non, tu pars de La Rochelle. C'est pas
si simple. Tu vas à Paris.
Tu vas à Paris, exactement.
Tu vas à Johannesburg. C'est pas direct
de vol.
Le Cap.
Eh oui.
C'est pas direct. Donc t'as quand
même. Tu prends un avion privé.
Oui,
c'est très cher.
C'est très compliqué.
Non, tout le monde n'a pas un jet.
Vous êtes un sport de pauvres et vous voulez faire des compétitions de riches.
Ce qui est ridicule, c'est que c'est juste avant 8e de finale où t'arrives après 24 heures de voyage le mercredi et tu joues le samedi après-midi. Moi, je vois pas comment ils vont gagner. Je vois pas comment ils vont s'imposer là-bas. Mais bon, voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question. Mais
vous n'avez pas changé de bouteille quand même.
Non, mais j'ai peur qu'ils
juste avant. Juste avant, pourquoi ils sont là, les Sudaf? Et parce qu'ils sont venus dans le championnat URC avec les Celtes, avec les Irlandais, les Gallois, parce qu'ils les Néo-Zélandais après le Covid voyageaient plus avec les Sudaf et les Australiens, ils savaient plus quoi faire et il fallait redonner un coup de boost aux Celtes. Donc ils sont dans un championnat européen en fait. Et donc s'ils se qualifient en Coupe d'Europe, c'est comme les Français, les Anglais.
Voilà. D'accord. Il peut pas retourner là, le Covid est fini, il peut pas retourner jouer entre eux là-bas, non?
Ça va finir comme ça.
En fait, à un moment donné, le calendrier est trop chargé parce que si tu avais de la place dans le calendrier, tu pourrais éventuellement faire des voyages comme ça, partir même avant une semaine pour t'adapter. Mais déjà le truc qui est stupide, si tu vas au bout du truc, les Sudaf, s'ils ont l'avantage du terrain en demi ou en quart, eh ben ils jouent chez eux. Ouais. À un moment donné,
tu peux avoir une finale au Sudaf là-bas.
Mais bah alors, la finale de la Coupe d'Europe, elle est à l'Afrique du Sud. Génie, les rugbymans, ça c'est trop fort. Mais après, moi sur le principe, moi j'aime bien, moi ça me plaît que les Français aillent taper les Sudaf. Avec ce qui s'est passé, ils sont venus nous humilier chez nous à la Coupe du Monde. Moi j'espère que les Danti, les Antonio, les Aldrit, ils ont quand ils vont voir Liboc en face, quand ils vont voir William C, ils vont avoir envie de leur casser la bouche. Moi j'ai envie de voir nos clubs français aller taper les clubs sud-africains.
Oui, pour le moment ça arrive pas.
Mais t'as mieux si ça arrive.
Mais au-delà de ce que nous a raconté Wilfried sur les stats là, sur deux ans, etc. Au-delà des voyages, etc. ce qui manque là, c'est on est sur une nouvelle compétition. Qu'est-ce qui fait la popularité et le succès d'une compétition? C'est l'histoire.
Eh oui.
Ce sont les rivalités. Pourquoi le PSG-Barça en Ligue des Champions de foot, c'est génial? Parce qu'on a 10 000 histoires à raconter, des rancœurs, oui, mais, des romances, une histoire commune. La question c'est, est-ce qu'on va créer une histoire?
Mais voilà, c'est ça, mais c'est le temps qui fait l'histoire.
Est-ce que vous pensez, quel est votre sentiment? Est-ce qu'on va. Les Sudaf, on les voit pas jouer toute la saison. On ne sait pas ce qu'ils font.
Non, mais il y a plein de visibilité.
Il y a
aucune visibilité.
Est-ce que vous pensez que ça peut prendre? Est-ce qu'il peut y avoir une histoire?
Moi, je pense qu'il va se construire.
Non.
Les clubs Sudaf rentrent au top 14.
Non, moi je pense que c'est trop loin.
Ouais, ouais, ouais.
Là, tu les vois jouer.
Non, mais
tu peux pas.
Non, mais c'est trop loin.
Tu peux pas créer une histoire en deux ans, c'est pas possible.
Mais c'est trop ponctuel. Il y a mal match. Tu fais un mois, tu vois les Sudaf, après c'est fini.
Mais c'est pas bien pour nous s'ils jouent à un autre rugby aussi.
Peut-être un peu.
C'est super.
C'est bien dans des conditions, comment dire, à la régulière. Mais là, est-ce que c'est vraiment la régulière?
Non, mais c'est vrai qu'en plus.
Tu vois les cartons qu'ils prennent à l'extérieur, ils prennent des 40 points, ce qui n'est pas du tout leur niveau en vrai.
Non, mais en plus, ça nous a servi en Coupe du Monde de les jouer régulièrement.
Non, mais Wilfried, ils songent à une Coupe du Monde des clubs.
Ah, super.
Je trouve, c'est une bonne idée.
Non.
Pas tous les ans.
Ah bon?
Mais pas tous les ans.
Tu
mais non, je te dis que c'est pas une bonne idée.
Non, mais Denis,
pour gagner des sous, ils sont capables de tout faire. Ils vont faire un championnat de leurs femmes. D'un pas le temps, il y aura les femmes.
Toi, tu veux voir les Sudaf. Enlever le rideau.
Alors, tu veux pas voir, tu veux pas jouer Auckland, tu veux pas jouer la province de.
Le problème, c'est que.
Mais faut supprimer quelque chose.
Mais vous pleurez, on a fait un débat, il y a eu trop de
mardi, jeudi dernier, pour dire les internationaux français jouent trop. Et on n'a pas de solution pour qu'ils jouent moins. Donc on ne va pas rajouter une compétition. L'idée peut être bonne, elle peut même être étudiée.
Mais il ne faut surtout
pas la réaliser. Surtout
les sous,
pas.
Les sous, l'avoine.
Surtout pas.
Mais voilà, on arrête le tournoi destination.
Non,
mais le tournoi destination, nous on l'a dit, il faut le faire une fois tous les deux ans. En réalité, c'est le championnat d'Europe.
Voilà. On est prêt à ça.
Pourquoi fait pas le tournoi des 10 nations?
Non, mais c'est.
Mais non, ils veulent pas. Parce que
c'est pas possible. Les fédérations ont besoin de cet argent.
C'est notre ADN. Et puis oui, il a raison.
Oui.
Les fédérations sont pauvres et il manque de moyens.
Moi, je veux bien. Il va y avoir une Coupe des Nations bientôt entre les pays en juin, juillet et à l'automne. Ce sera plus des test matchs, il y aura une Coupe des Nations.
Donc ça rajoute pas de matchs, c'est pas trop grave.
Auton Cup qui avait déjà eu.
C'est pas plus mal parce que c'est des tests, ce sera des
matchs. Denis, est-ce que tu échanges une Coupe du Monde des clubs, mettons tous les deux ans, contre l'abandon de la Champions Cup? Ça n'existe plus.
Moi, oui.
Toi, oui.
Ah, oui, sans problème.
Vous savez quoi, une Coupe du Monde des clubs?
Tous les deux ans, mais il n'y a plus de Coupe
d'Europe. Du Monde des clubs.
On va faire les deux.
Moi, ça me botte.
Moi, je vais te dire, tu auras un vrai intérêt. Alors après,
on l'a fait où? On l'a fait en Nouvelle-Zélande ou on l'a fait en France?
Ah ben après, c'est à eux décider. Chaque deux ans, tu vas aller en Europe, tu vas en Nouvelle-Zélande, tu vas en Afrique du Sud,
en Argentine.
Ou en Argentine.
Et surtout en Argentine, Denis, on ira.
Et surtout en Argentine.
Encore une fois, Denis, c'est l'idée est belle, mais est-ce que ça va remplir les stades? Tu vas faire ça sur un terrain neutre?
Ah, je pense que oui.
Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que les supporters du stade toulousain, ils vont se déplacer à 10 000 en Nouvelle-Zélande.
D'accord, ils vont pas y aller tous à 10 000 là, mais
ils vont être privés de ce moment-là.
Imagine en France, tu aurais une un jour tu en France, tu auras les stades pleins en France.
Ça veut dire qu'il faut faire ça sur quoi? Sur trois mois? Sur trois semaines? Un mois? Toutes les équipes se réunissent
ou voire deux mois.
Tiens, je vous donne des infos sur les matchs du week-end. Il n'y aura pas de Mathieu Jalibert pour Bordeaux Saracens. Il a été touché au genou gauche face à Toulouse. Aucun risque pris. Et donc, ce sera sans Jalibert. C'est quand même moins simple sans Jalibert.
Moins simple. Et puis bon, je crois que le Saracens qui avait pris une déculottée chez eux dans la saison. Et je pense que ça va être plus compliqué pour le.
Et puis alors, il y a Toulouse Racing dimanche à 16h avec le retour d'Entamac, le forfait de Ramos. On va retrouver la charnière Dupont Entamac, mais écoutez bien Hugo Mola, interrogé à ce sujet, le rôle de Dupont pourrait à l'avenir ne pas se limiter à 9 ou 10 comme il a fait là ces derniers matchs.
Là, pour l'instant, il a été souvent en 9 et quelquefois en 10. On a dans l'idée de le faire jouer ailleurs aussi dès son retour des JO. Donc, pour nous, c'est un joueur qui n'a pas réellement de poste dès l'instant que le jeu s'emballe. On sait très bien qu'Antoine pourrait jouer à beaucoup, beaucoup de postes. Oui. Antoine, que ce soit 9, 10, 13 ou 15.
18 aussi.
Pour être international, le 4 postes.
Non, mais tu sais quoi?
Non,
mais Pierrot, il n'est pas fini, tu ne l'as pas laissé.
Il peut jouer meilleur de jeu aussi.
Non. Ils veulent le faire jouer au TFC aussi. Jouer au TFC.
Oui, j'ai vu qu'il a l'endroit.
Côté Dalinga.
Mais en 9.
En 9.
On est d'accord.
Un électron libre derrière l'attaquant de pointe.
Il fait semblant. Il joue le premier degré. Il fait semblant.
Je sais pas. sais pas. Après,
sur certains matchs, pas sûr.
Non, mais après.
Par contre, sur les gros matchs du Pontamac,
après, ce qui est difficile à entendre, c'est que ils ont tellement de monde au Stade Toulousain, je vois pas que l'intérêt de faire jouer du pont arrière ou centre. Voilà. Le seul problème est là.
Le Toulouse Racing, c'est le Charles Tico, un peu, non?
Mais alors, HTML du Olympique, notre partenaire, il y a une page 2 de. Consacré à Denis Charvet, interview de Denis Charvet. Racing. Denis nous dit un Toulouse Racing, c'est un peu une querelle d'école. Voilà,
c'est intéressant.
Après, l'avantage de la presse écrite, c'est que tu peux réécrire les propos.
c'est vraiment ce que j'ai dit.
Tu peux les reformuler.
Denis, c'est intéressant.
Il y a du scaphandrier ou non?
Non, tout est intéressant, notamment cette question. Stuart Lancaster fait-il la différence?
Arrête, je te jure, je me lève.
Quoi?
Je me lève là.
Stuart Lancaster, depuis qu'il est au Racing, fait-il la différence, la culture britannique? Réponse de Denis, peut-être, oui. Voilà.
Est-ce qu'il y a du Pierre Milou?
Il s'engage, Denis, dans l'interview.
Dans un instant, Journal Moyen, première édition.
La première édition, les grandes gueules, on en a débattu ce matin. Vous allez devoir choisir votre camp, vous qui vivez dans des villes, dans des grandes villes. Vous choisissez le camp du vélo ou de la voiture. C'est tout de suite dans le Journal Moyen, première édition. Je sais quel camp Pierrot a choisi déjà, parce que Pierrot,
tous les Parisiens choisissent
à la planète.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show sur RMC, il est 15h48, c'est l'heure du Journal Moyen d'Adrien Aigouin.
À la une du Journal Moyen, première édition aujourd'hui sur RMC, l'actu, la culture, les médias, vous allez trancher le combat vélo-voiture. Une méga star de la chanson française sort un nouveau clip, c'était inattendu, c'est pour un anniversaire qui compte, un ami de Denis Charvet, parce que Denis Charvet est ami avec toutes les stars.
Non, pas toutes.
C'est qui le numéro de téléphone le plus connu dans ton répertoire?
Viens faire concours de numéro.
Eric, je connais, c'est Tabata Cash.
Stephen, il a Tony Parker. Michael Jordan. T'as qui encore?
Non, mais c'est toi la question, c'est pas moi.
Moi, j'en ai un, je peux pas. C'est Vincent Moscato, c'est le plus connu, voilà. Sympa. Et puis, une magnifique histoire de l'auto. Vous écoutez RMC, c'est le 1783e Journal Moyen de l'histoire de Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le Journal Moyen. Première édition.
J'ai écouté les grandes gueules ce matin sur RMC, 9h midi à la Marshall. Non, pas dans la Marshall, il a pris un petit jour de RTT. Olivier Truchot,
qui présentait l'émission. Il est peut-être un week-end avec Vincent.
Alors, débat 10h30, tous à vélo, la voiture est-elle devenue ringarde? C'était un débat pour Pierre Dorian, j'imagine que Pierrot a écouté ça ce matin. Joëlle Dagosséry a un avis tranché, elle n'aime pas le vélo. Elle dit même, elle va très loin, je ne pourrais pas vivre avec un compagnon qui a fait du vélo son moyen de transport principal. Elle est anti-vélo. Et du coup, elle en perd même son vocabulaire en direct, tellement c'est un sujet sensible pour elle.
Ah non, pardon, c'est ton compagnon.
Non, mais c'est...
Te dit Joël, maintenant, c'est non. Vélo, tu le quittes.
Ça risque pas. Non.
Pourquoi?
Non, parce que en fait, c'est les vélos, les vélotistes, je sais pas comment on les appelle. Ah oui, c'est ça. Les cyclistes.
Les vélotistes.
Après, franchement, elle a pas tort. Ouais. Elle a pas tort parce que quand tu vois Pierrot faire du vélo, c'est pas un cycliste, c'est un vélotiste.
C'est un véloteur.
Alors, ils ont fait ce débat parce qu'il y avait quand même une actualité. Hein. Il y a cette info selon l'Institut Paris Région. Les Parisiens utilisent aujourd'hui, ça y est, la bascule a été
plus le vélo que la voiture.
C'est effectif, les Parisiens utilisent davantage le vélo que la voiture.
C'est bien.
Pour les déplacements, le vélo a pris le pouvoir sur la voiture. Il y a un autre moyen de transport qui est le plus populaire aussi, c'est les métros et le tramway, les transports en commun et le bus. Vous êtes vélo ou voiture? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes Dagosséry ou comme Pierrot Dorian?
Denis
il est anti-vélo.
J'en peux plus des vélos.
Pourquoi tu prends pas le métro?
J'en peux plus des vélos.
Pourquoi tu fais pas?
Je fais l'overdose des vélos, ils se croient tout permis. C'est offre.
Tu peux plus circuler, Eric.
Alors, le problème, c'est que les Pierrot Dorian, tous les bobos Pierrot Dorian sont d'arriver à Marseille avec leur vélo cargo où il y a toute la famille dessus. C'est-à-dire que tu peux même plus les écraser parce qu'avant, tu écrasais les cyclistes, tu écrasais un membre de la famille. Maintenant, tu fais génocide quand tu écrases un vélo.
Mais pourquoi tu ne te places pas à vélo?
Alors, moi, par contre, alors écoute-moi.
C'est le problème.
Non, moi, je vais te dire, je vivrai à Paris puisque c'est une ville plate où il y a beaucoup de pistes cyclables. Je roule à vélo, je te jure. Et en plus, il fait froid chez vous, donc tu ne transpires pas. Moi, quand je fais du vélo à Marseille, j'habite en haut de la côte, là-bas, la Bonne Mère. Je te dis que je déguste.
Stephen,
Moi, je suis plus voiture. Moi, je suis plus voiture. Et je rejoins. C'est vrai que les délires là, des bobos là, avec leur vélo, où il y a une plateforme derrière, c'est des convois exceptionnels. Il y a les quatre enfants, il y a le chien.
C'est pas non plus la généralité. Hein.
Ils ont tout ça.
Surtout, ils font ce qu'ils veulent.
Ils nous ont envahis.
Ils nous ont envahis. Il y en a beaucoup. Je te demande pas ton avis, tu es cycliste.
Par contre, il faut légiférer la circulation des vélos. Vélo, il y a pas de panneau.
Je vais faire mon écolo. Je vais faire mon écolo de base. J'ai fait une étude sur Denis Charvet.
Toi aussi, tu fais ce que tu veux.
J'ai fait une étude. Est-ce bien utile de prendre sa voiture? Alors effectivement, on fait ce qu'on veut, mais bon, parfois on peut faire un effort même pour sa santé.
Et quel enfant.
Je connais l'adresse de Denis Charvet. Parce que je suis déjà allé chez lui. Donc, Denis, quand tu n'as qu'une seule chose à faire l'après-midi, c'est vraiment ton seul trajet. Si tu as le seul trajet.
Combien de kilomètres, Denis,
est-ce que tu prends ta voiture pour faire maison-travail? Ici,
c'est combien de kilomètres?
Je l'ai eu fait une fois.
Est-ce que tu prends ta voiture pour faire ta maison ici régulièrement, tous les jours?
Combien de kilomètres?
Tous les jours. Donc voilà. Écoutez.
2 kilomètres, tu n'es pas capable de les faire en vélo.
Écoutez bien, je vais même plus loin que ça. Denis, qui a la soixantaine, a besoin de faire un peu de sport, d'activité.
Il a de gros problèmes physiques, on le sait.
La durée en marche à pied, en marchant normalement.
25 minutes.
Domicile de Denis, travail, 25 minutes à pied. Denis pourrait devenir à pied en 25 minutes sur le travail.
Moi, je sais pourquoi il ne le fait pas.
Pourquoi?
Trop de notoriété.
Parce que c'est un feignant.
Il mettrait 2h30 à se dire,
c'est un feignant.
Denis,
je ne suis pas
feignant.
Mais c'est vous, les embouteillages, c'est vous, c'est les gens comme toi.
Écoutez le pire, je l'ai fait à l'horaire où il repart du travail.
Par contre, il y a du monde.
À vélo.
À vélo,
Denis minutes. Mettrait 10 minutes. Voilà. En voiture, 12. C'est-à-dire qu'il mettrait moins de temps en vélo qu'en voiture.
Encore,
Denis,
quand il n'y a pas de mauvais
voilà. Tu sais, Denis, en plus, franchement, c'est bon pour nous, les vieux, de faire de
la marche. Ouais,
il pleut trois fois le nombre de fois il est venu en vélo,
il a dû changer. Il était en vieux jogging, du meilleur football.
Ça arrive trois fois.
Demande à Benson qui prend le scooter.
Alors maintenant, moi, j'ai quand même pour répondre, là, les individualistes, là, qui prennent leur bagnole, là. D'abord, chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. Les vélos qui se comportent mal, c'est vrai. Et les automobilistes se comportent aussi très mal, mais c'est beaucoup plus dangereux.
À cause de vous.
Non, déjà, je vous ai laissé parler, tu me laisses finir. Et ensuite, là, quand vous gueulez.
Les vélos, ça.
Quand vous gueulez, là, avec votre délire libertarien, là, quand vous prive de liberté parce que vous ne pouvez pas prendre votre bagnole parce qu'il y a moins de place pour les voitures, vous avez le droit de prendre votre voiture. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire, tu prends ta voiture, c'est toi qui fais les embouteillages. L'exemple de Denis, il est excellent. Et donc maintenant, tu attends et tu assumes. Et surtout, tu t'en prends pas aux autres, tu la fermes.
Et tu la fermes.
Moi, tu prends ta voiture et t'attends dans les embouteillages et tu te tais.
Sans transition.
J'écoute ma musique.
Des amis rien, pour nous détendre. Un ami du Super Moscato Show.
La belle Toulouse se réveille dans.
Des nouvelles du fidèle supporter du SU Agen qui a fait partie du conseil d'administration du club
et du Moscato Show. Hein.
Nous avons reçu deux fois ce monsieur qui s'appelle Francis Cabrel, un monsieur que tous les Français connaissent, qui crée l'événement. Aujourd'hui, c'est déjà, il en prend un coup de vieux, ce sont les 30 ans de la sortie de son album mythique.
Il arrive, elle le voit.
Samedi soir sur la Terre. Sorti le 6 avril 1994, c'est le disque français le plus vendu de l'histoire.
Bah ouais.
C'est le disque français le plus vendu de l'histoire. Ah bah en 94, il a vendu 3,5 millions d'exemplaires.
Bravo Francis.
Les disques, 3,5 millions. Et à l'époque, Francis Cabrel n'avait pas pu sortir le clip d'une de ses chansons qui est aujourd'hui la plus célèbre. Ce matin, BFM TV a dévoilé les premières images du clip de cette chanson.
La Corrida.
La Corrida. Clip assez sobre, on voit un torero, on voit Cabrel, assez sobre, on voit pas de taureau. Cabrel sort ce clip qui n'avait pas pu sortir à l'époque puisque cette chanson était anti-corrida, clairement. Elle avait fait polémique, la maison de disques était un peu frileuse, elle n'était pas très chaude pour surfer sur le succès de cette chanson. Donc le clip n'avait jamais été réalisé. Nos copains de BFM TV ont même retrouvé une interview de Cabrel en 2000 dans l'émission Tout un programme. Il raconte l'idée de la chanson. Il vient d'assister à une corrida à Bayonne. C'est pas son truc, il prend la voiture et là il pense aux deux oreilles, vous savez.
Oui.
Et ben
oui,
il raconte la suite. Que, et ben, il est en voiture et ben, il pense à tout ça.
Parce que moi, si on me coupe les deux oreilles,
on écoute.
C'est parti de la phrase ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Bon, ça, c'était une espèce de jeu de mots un peu équivoque. En fait, j'ai tout construit là-dessus. Et c'est vrai qu'en rentrant, j'étais dans une voiture. Bon, j'avais le dictaphone au fond du coffre. Donc, je me suis arrêté avec le thème, quoi. Le et puis quelques phrases donc il fallait tout de suite capturer tout ça.
C'est simple d'écrire un tube, sauf que nous, on n'a jamais l'idée. C'est vrai que tu dis ça comme si...
C'est ça, les artistes.
Sauf qu'il y a des mecs qui sont doués pour écrire.
Et il y en a passé 4 000 au final.
Alors Luc, du coup, il avait été aidé et il l'aide. Titre réalisé avec Nicolas Reyes des Gypsy Kings. C'est lui qui fait la voix espagnole à la fin, à la toute fin de cette magnifique chanson. 30 ans, un samedi soir.
Dans le clip, est-ce qu'il met l'habit de lumière, tu sais, avec le coton.
C'est très très sobre comme
clip. Les toréadors.
Ouais,
tu le sais.
De quoi?
Ils mettent le coton, les toréadors.
Le coton.
C'est la vérité.
Pour faire semblant que
c'est la vérité. C'est tellement près du corps que.
Des coquilles, je pense qu'ils mettent des coquilles.
Non, non. Ils mettent du. Mais ils mettent du coton pour.
Pour montrer que c'est bien, quoi.
Pour montrer que la vérité.
Résumé de ce jour. Journal moyen, on va prendre des bonnes résolutions. Denis, promets-nous, le prochain Moscato Show lundi, tu viens à pied. Et tu dis si ça t'a bien passé ou pas au Moscato Show.
Mais tu sais qu'en plus, pour toi, ça ferait du bien.
25 minutes.
Mais sinon, ce que je te propose, c'est que moi, j'habite un peu plus loin, je reste te prendre en voiture.
Voilà, c'est une bonne solution, ça.
Le covoiturage, les gars.
Oui. Ils se pensent qu'à leur gueule, ils ne veulent pas faire d'efforts, ils sont près de cyclistes, ils polluent la planète.
T'as vu, disant non, rien n'a
à ce moment-là, il faut la morale à tout le monde.
Alerte.
Alors, écoutez, c'est l'alerte pour vivre l'expérience RMC. Aujourd'hui, à gagner votre place pour Benfica-Marseille, le match aller le 11 avril, plus un maillot de l'OM. Vous envoyez maintenant OM par SMS au 732-16. L'OM, on en débat à 17h, mais avant cela, Ousmane Dembélé est-il un foiré classe? Et le Super Moscato Show règle le problème.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.